J'aurais une question, si vous permettez, par rapport à l'aspect, puisque le texte c'était la violence dans l'islam, pour comprendre les débuts de cet aspect-là. Le bel exemple pour les musulmans, c'est Mohamed
Les musulmans d'après, hein, pas au
Oui,
début.
non,
Hein.
mais justement, est-ce que sur cet aspect-là, la vie de Mahomet, telle qu'on l'a, et notamment je pense au massacre des tribus juives de Médine, est-ce que c'est quelque chose qui est historique, qui a un fond historique, ou bien c'est une pure reconstruction, et auquel cas la violence qu'on peut attribuer à Mahomet en tant que bel exemple n'a pas lieu d'être parce que c'est complètement reconstruit?
Alors, ça n'a rien à voir. Les tribus, il y a une tribu qui a été. Les hommes d'une tribu ont été mis à mort. Alors, le problème avec les Juifs de Médine, c'est qu'ils ne voulaient pas écouter, ils ne voulaient pas être alliés avec Mohammed. Donc, sur le plan idéologique, c'était bloqué. Pour réussir à se débarrasser des Juifs de Médine qui l'embêtaient, il a réussi, il fallait trouver une raison politique. Donc, dans un premier temps, il y a eu deux tribus qui ont été expulsées pour des raisons politiques. La troisième, les hommes de la troisième tribu ont été mis à mort pour trahison tribale, c'est-à-dire pour une raison purement politique. Parce que jamais Mohammed, il n'était pas le bel exemple pour les Médinois, pas du tout, ça c'est après. La Médine avait été assiégée par une coalition de tribus et la tribu qui va être, dont les hommes vont être tués ont été accusés d'avoir pactisé avec les assaillants. Ça a été, alors prétexte ou pas, en tout cas, c'est une raison purement politique qui ensuite va être idéologisée, mais à l'époque, c'est uniquement une raison politique. Parce qu'on ne peut pas s'attaquer à quelqu'un sur un plan idéologique.
Mais l'effet, c'est que Mahomet, le fait que Mahomet participe à cette...
Il participe, non, justement, il ne participe pas parce qu'il ne fait. Ce sont les alliés tribaux de cette tribu qui mettent à mort les hommes et pas lui. Il ne peut pas. Et pour haute trahison, alors ça, effectivement, dans le monde tribal, haute trahison de cette façon, c'était passible de la mort. Mais c'est une règle tribale, ce n'est pas une règle coranique. C'est-à-dire qu'il n'y a pas, le Coran n'institue pas de règles nouvelles, sauf peut-être un peu sur le culte des anciennes déesses, etc. Mais sur le plan social, tout ce qui est règles matrimoniales, règles de partage de ceci ou de cela, règles économiques, c'était les règles tribales. Ce que le Coran demande, c'est simplement de respecter les règles. Il n'y a aucune invention de règles nouvelles. Je dirais qu'il aurait échoué politiquement s'il avait essayé d'innover, parce que ce sont des sociétés qui vivaient sur la tradition patriarcale. Les pères, puisqu'ils étaient là, les pères, c'est qu'ils avaient réussi à survivre. Et c'est quelque chose de tout anthropologiquement très intéressant. Un homme de tribu jusqu'à aujourd'hui ne s'intéresse qu'à ce qui survit jusqu'à lui. Et par exemple, vous avez des archéologues qui arrivaient en Arabie, qui voyaient des inscriptions, et le bédouin qui était là dit, mais on ne les connaît pas ces gens-là, pourquoi tu t'intéresses à eux? On avait besoin, les tribus avaient un paradigme généalogique. Il fallait que ce soit en rapport avec eux, pour que ça les intéresse. Donc Mohammed n'aurait pas pu être innovateur, révolutionnaire, etc., comme on se l'imagine aujourd'hui. Anthropologiquement, c'est impensable.
J'aurais une deuxième question, si vous permettez,
Oui.
complètement différente. On ne devient pas des experts en islam encore, mais en revanche, on a déjà eu un certain nombre d'enseignements, et notamment, vous citiez M. Amir Moïsi, ce qui a beaucoup insisté sur l'aspect, justement, l'influence biblique qu'on trouve dans le Coran. Pour vous, c'est nul
Oui.
et non avenu, ou bien
Alors,
c'est quelque chose qu'il faut
je
comprendre différemment?
dirais qu'il y a énormément d'éléments bibliques dans le Coran, bien sûr, mais ils sont coranisés. C'est-à-dire que c'est pas un emprunt, c'est pas un copier-coller, c'est une appropriation. Et vous prenez la Bible, ben vous avez plein d'éléments assyriens, machin, truc, c'est pareil. Donc, on prend ce qu'il y a avant, on en fait sa chose. Et ce que je reproche aux gens des Corans, des historiens, aussi savants soient-ils. Je ne dis pas que c'est des idiots, pas du tout. Ils sont très savants. Sauf que, historiquement, ils sont dans une impasse, parce que ce qui les intéresse, c'est de dire « Ah, ben ça, il y a tel récit biblique, machin, etc. » Mais qu'est-ce que le Coran fait de ça? Ça, ça ne les intéresse pas. Alors, moi, c'est ça qui m'intéresse. Les emprunts bibliques, les appropriations bibliques, qu'est-ce que le Coran en fait? Alors, le Coran ne prend que ce qui l'intéresse. Pourquoi, par exemple, dans le Coran, Jésus n'est pas crucifié? Alors, on a dit oui, ben, c'est parce que les docètes de 3 siècles avant l'islam ne croyaient pas à la crucifixion de Jésus. Non, ce n'est pas ça. Anthropologiquement, le Dieu créateur allié des hommes ne peut pas sacrifier un de ses prophètes. Ce serait une trahison tribale. Ce serait une rupture de contrat. La raison, elle est anthropologique. Elle ne remonte pas à une secte chrétienne quelconque. Tous les messagers, comme on dit, tous les rasouls du Coran sont sauvés.
Est-ce que cela explique la haine à l'heure actuelle du monde musulman face aux juifs?
Alors, il y avait bon... oui, mais ça, c'est la période moderne. C'est-à-dire que les musulmans ne se remettent pas de ce qui leur est arrivé depuis la colonisation, tout simplement. La chute de l'Empire ottoman et la colonisation, ils ne savent pas où ils habitent. Étant donné qu'ils n'ont aucune vision historique critique de leur passé, le problème en Afrique du Nord, ça a été quoi? Ça a été qu'on a donné la nationalité française aux Juifs et pas aux locaux.
Avant la nationalité française, le décret de Clémieux pour l'Algérie.
Oui.
Au Maroc, il y a eu beaucoup d'événements au XVIIe et XVIIIe siècle.
Oui.
Beaucoup de Juifs ont été sacrifiés.
Avec la période moderne, les problèmes ont commencé avec la période moderne et la colonisation. Alors, il y a, d'une façon générale, si vous faites le comparatif entre la situation des Juifs dans la chrétienté et dans le monde musulman, je dirais que la balance, c'est pas difficile de voir où ça va. Dans le christianisme, ça a été absolument épouvantable. Il y a eu, à partir du chez les Ottomans, où sont allés les Juifs d'Espagne? Ils sont allés dans l'Empire ottoman. Alors maintenant, évidemment, avec la période moderne, toutes les guerres, etc., tout change. Mais jusque-là, ça n'avait rien à voir, ce n'était pas comparable. Puisque les Juifs sont considérés comme une religion qui se trompe, mais...
Aujourd'hui, pour certains endroits, en Europe, l'enseignement du Coran, c'est la haine, c'est...
Parce que c'est un enseignement non historique.
Ils sont loin de connaître que la transmission est très mal faite, le principe du Coran, on n'enseigne que la haine.
Mais parce que vous n'avez pas de vision historique. C'est-à-dire que l'historicisation du Coran était l'historicisation des lectures. Parce que vous avez la lecture première, un texte voyage avec ses mots, mais le sens se reconstruit dans chaque contexte. Et ça, les musulmans d'aujourd'hui n'arrivent pas, ils mélangent les corpus de différentes périodes. Et dans le corpus de la tradition prophétique, dont je dirais que les pouvoirs de l'époque se moquaient complètement, c'est-à-dire ce que racontaient les gens de la tradition prophétique, ce qu'on appelle les savants du hadith, les pouvoirs politiques de leur époque s'en fichaient complètement. Donc c'est un discours en roue libre, c'est un discours souvent de surenchère. Vous connaissez ce truc, au moment du jugement dernier, les arbres dénonceront les juifs et toutes les conneries. Bon, ce genre de choses qui est pris quasiment au sérieux aujourd'hui, puisqu'il y a un imam, c'est l'imam de Toulouse, je crois, qui avait raconté ça en fraîche. Bon, un dirigeant des époques antérieures, un dirigeant ottoman, aurait rigolé. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, les musulmans d'aujourd'hui n'ont aucune vision historique et mélangent les corpus. Et alors, c'est ce phénomène de sacralisation qui est un véritable cancer aujourd'hui, qui bloque tout. Et c'est là-dessus qu'il faut travailler, essayer de revenir à une vision qui remet le sacré à sa place.
Vous avez réduit l'origine du séparatisme, le schisme, le chiite, sunnite. Alors, d'un côté, une querelle de cousins, un problème de légitimité entre descendants.
Oui.
Et puis, s'agissant des sunnites, l'instauration, une démarche qui vise à installer plutôt une voie d'une tradition prophétique pour justifier leur position. Mais ce que je n'arrive pas à voir, c'est fondamentalement quelle est la différence entre les deux, même s'il y a visiblement un débat sur l'origine.
Oui.
J'avais lu le livre d'Antoine Sfer, L'islam contre l'islam, qui justement racontait ça, mais plutôt d'un point de vue tel qu'on le connaît, c'est-à-dire le meurtre
le meurtre de Hussein.
Mais je n'arrive toujours pas à comprendre.
Oui, l'exécution, disons.
J'arrive toujours pas à comprendre, fondamentalement, même dans la pratique, ce qui diffère l'un de l'autre.
C'est-à-dire que les chiites, déjà, ils ont, je dirais, on pourrait presque dire qu'ils ont une église d'une certaine façon. Ils ont des savants religieux qui sont institutionnalisés. Il y a une exégèse permanente. Il y a, à la fois, il y a les mythes où Ali aurait dû succéder. C'est la succession volée. Il y a l'histoire de la succession volée. Alors qu'en fait c'était de la politique et le Ali en question politiquement c'était vraiment le dernier qui pouvait diriger quoi que ce soit, enfin bon c'était un nul politiquement il a eu 5 ans de pouvoir et ça a été de la guerre civile, il a réussi à se mettre tout le monde à dos. Il n'y aurait pas eu le meurtre du petit-fils, il n'y aurait pas de chiisme. C'est ça le point de départ. Donc après, ils ont Ali, il est comme Moïse et Aaron. Ali, c'est le prophète muet, et l'autre, c'est le prophète qui parle. Enfin bon, tout ça, c'est des trucs qui se montent au Xe siècle. Et alors, il y a une spiritualité chiite qui est très intéressante parce qu'elle est liée aux néoplatoniciens. Et donc là, il y a de grands spirituels qui brodent à partir de ces mythes, qui se lancent dans des grandes réflexions théologiques beaucoup plus élaborées que dans le sunnisme. Alors le sunnisme actuel, c'est une vraie catastrophe avec le wahhabisme, qui est un sunnisme de base qui était considéré comme complète, quasiment hérétique au XVIIIe siècle. Qui réussit à se faire une virginité en s'alliant au salafisme, le salafisme qui démarre avec les frères musulmans dans l'Égypte sous contrôle anglais en 1928. Le Coran est notre constitution, etc. Donc le chiisme, c'est une au départ, enfin se fabrique est beaucoup plus philosophique, beaucoup plus théosophique. Que le sunnisme, en tout cas, que le sunnisme actuel, c'est une catastrophe.
Ça explique beaucoup de choses lorsqu'on voit le régime islamique.
Il y a de grands intellectuels chez les Iraniens, ça, il n'y a pas de problème. Il y a de grands intellectuels. Dans le sunnisme, il y a les soufis, où il y a eu de grands spirituels, évidemment. Le soufisme, c'est pareil, c'est quelque chose qui ne pouvait pas exister dans la société tribale. On ne fait pas de mystique dans une société de survie. Ça n'existe pas. On est pragmatique. Dieu au désert, c'est les Occidentaux qui vont chercher Dieu au désert, le Dieu unique, etc. Non, les hommes du désert, c'est des pragmatiques. Il faut remettre les pieds sur terre. Non, alors vous avez un livre aussi qui est épouvantable, mais ça c'est sous l'inspiration de Moïse, c'est Les derniers jours de Mahomet. Alors ça c'est terrible. Non, le problème c'est que je vous dis personne, enfin, il y a très peu de gens qui font de l'anthropologie historique dès le début de l'islam. Et pour moi, c'est la voie royale pour comprendre quelque chose.
C'est long.
Ah oui. Oh ben moi ça va, hein. J'écris. Je suis tombée dedans par hasard. D'ailleurs, un jour, j'avais donné une question sur les débuts de l'islam à mes étudiants d'agrégation, parce que je ne travaillais pas du tout là-dessus au départ. Et puis, c'était sur les débuts de l'islam. Et je commence à lire. J'avais déjà un sujet de doctorat d'État différent depuis plusieurs années. Et puis, je commence à lire. Et ce que je lis, ça me paraissait tellement débile qu'à la fin de l'été, je suis allée voir mon maître Claude Cahen et je lui ai dit « Monsieur, je change de sujet. » Et ben, j'ai bien fait. Parce qu'il m'a tout de suite suivi. C'était vraiment un grand homme, un grand esprit. Et ensuite, on trouve les choses en avançant. Quoi. Il faut trouver le début de la piste, et puis après, on suit.
J'aurais une autre question, si vous permettez. Une dernière, très vite. Vous avez parlé d'un contresens qui se résume finalement à ce que... L'islam interdit toute réponse violente à une offense,
oui.
Par extension, bien sûr, à une caricature.
Enfin, l'islam coranique. L'islam tribal.
L'islam tribal. Alors justement, comment est-ce qu'on passe, c'est le cœur de ce soir, s'agissant de la violence, comment est-ce qu'on passe de ce précepte qui veut que finalement, même avec une provocation, et si on déroge, c'est la loi du talion qui s'impose, là, c'est pas une couronne dans le tournant. Comment est-ce qu'on passe de ça à, d'abord, dans un premier temps, à des conquêtes qui sont quand même assez violentes.
Non, conquête, expansion tribale, c'est tout. Non.
Alors, là, c'est vrai qu'à partir des Mongols, ça devient...
Non, les Mongols, c'est autre chose. Les Mongols, ce n'est pas les musulmans.
Oui, d'accord. Oui. Mais il y a une intégration.
On change de modèle sociétal.
Voilà.
Vous avez un modèle tribal qui s'arrête en 750. Bon. Vous avez Mahomet qui est en Arabie. Bon. Ensuite, vous avez les conquêtes. Mais les Omeyyades, pendant 100 ans à peu près, ils sont au pouvoir 89 ans, un truc comme ça, laissent de côté les populations extérieures qui ne doivent pas se convertir. Puisque pour entrer dans l'alliance d'Allah, il faut entrer dans une tribu. Donc, il n'y a aucune pression idéologique. Chacun a ses petites affaires, on paye le tribut à la fin de l'année, on se tient tranquille. C'est tout. Donc, les modèles d'intégration vont se faire dans la société impériale. Et dans la société impériale, vous avez des modèles d'autorité. Alors, à la fois, il y a la sacralisation et puis... l'obéissance au pouvoir. Un homme de tribu n'obéit à personne. Un homme de tribu voit l'intérêt de son clan. Il n'y a pas de structure étatique qui lui dit « tu vas faire ci, tu vas faire ça ». Il n'y a pas de justice, il n'y a pas de police. Donc, il est seul face à ce qui lui arrive. Et donc, il y a une totale autonomie dans ce système tribal, surtout dans ce type de société où on survit. On ne savait pas l'année d'après si on serait vivant ou même le jour d'après. Vous êtes perdu dans une tempête de sable, etc. etc. Donc, il y avait une totale autonomie et aucun diktat ne peut s'imposer dans ce type de société. Par exemple, mon mari connaissait un ancien ambassadeur en Arabie Saoudite et un jour, il sort de Riyad et qu'est-ce qu'il voit dans le désert? Une fille qui conduit une jeep. Et il dit à son accompagnateur, mais comment ça se fait qu'il conduit? Et ça date de 30 ans et quelques. Et l'autre lui dit, bah, ici on est sur le territoire de la tribu machin, ce que Riyad dit, on n'en a rien à faire.
Et donc l'émergence d'une violence se fait sous l'Empire?
C'est l'Empire. Bah, la violence, c'est la violence de l'Empire.
Ok, aujourd'hui aussi, elle existe, cette violence.
Ah bah, les États musulmans, bien sûr. Mais ça, c'est la violence, la conjoncture moderne qui est extrêmement violente, les guerres, les frustrations. Et à ce moment-là, vous légitimez la violence à partir de... c'est-à-dire la lecture du Coran, ils s'en fichent complètement. La lecture historique du Coran, ils s'en fichent.
Comme ça, malheureusement, l'ignorance de la lecture du Coran...
Oui, mais regardez dans le christianisme et dans le judaïsme la difficulté qu'il y a eu pour imposer une lecture historique. Ça ne s'est pas fait tout seul. Hein. Ça a mis du temps.
Le changement, la bascule dans la doctrine, c'est 700...
À partir du moment où vous arrivez dans un espace impérial, forcément, vous ne lisez plus un texte tribal de la même façon. Vous ne le lisez plus comme tribal.
C'est vrai que la conquête, la volonté, je ne dirais pas hégémonique, mais presque, date à peu près de cette période-là.
Non. Les tribus, elles avaient. Elles gagnaient. Ben, elles continuaient, tout simplement. C'est tout. C'était la razzia surdimensionnée, c'est tout. Il n'y avait même pas de plan de conquête.
Il y a d'abord la conquête par razzia, et après la religion devient un facteur d'unité de l'empire.
C'est ça.
Eh bien.
Bon, on va arrêter là, du coup. Hein. Merci, Jacqueline.